Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette séance table ronde finale de notre colloque, qui en fait achève un discours pour en ouvrir un autre. Je tiens d'abord à dire un mot quelque peu inusuel pour un organisateur, pour l'organisateur que je suis de ce colloque, mais que je trouve un mot que je trouve juste et nécessaire. Je tiens c'est-à-dire à remercier les organisateurs. À l'occurrence, je tiens vraiment à remercier Jean-Vincent Olendre pour avoir mené avec moi un esprit d'amitié l'entreprise commune de l'organisation de ces colloques. Je ne vois pas Jean-Vincent, voilà. Je crois que l'amitié, ce n'est pas la dernière leçon et la moindre importante qu'on apprend dans les dialogues à l'ombre, dans les séminaires de Pierre Manon. Et donc, je tenais à remercier Jean-Vincent pour cette entreprise commune. Mettre en commun les actions et les raisons n'est pas simplement une belle citation. Je suis particulièrement heureux, évidemment, et même touché d'introduire, présider, présenter cette table ronde. Pendant 10 ans, je suis entré dans ces séminaires, comme beaucoup d'entre vous, des amis que je vois. J'arrivais à Nantes et j'ai parti à regret. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai mesuré à quel point et en quel sens la vie peut être pensée, comprise. À quel point, en quel sens la vie politique peut être pensée et comprise, et à quel point, en quel sens, la vie peut être comprise et pensée comme vie politique. Dans ces mots que je viens de prononcer, évidemment, retentit ma gratitude à l'égard de Pierre Manon, que je ne cache pas et qui est très grande, mais aussi, comme certains d'entre vous l'ont deviné peut-être, une thèse scientifique, une confiance à la raison, qui ne définit plus nécessairement notre rapport à la cité, qui ne définit plus nécessairement notre démarche scientifique ou les regards que nous portons sur les objets et sur nous-mêmes. Nous ne pensons pas nécessairement que nous pouvons penser et comprendre la cité et la raison, ou que les deux choses s'accompagnent. Et donc nous ne pensons pas, peut-être, si je peux résumer comme ça ce que je viens de dire, qu'un séminaire comme celui de Pierre Manon soit encore possible. C'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer, pas seulement la communication de Pierre Manon, mais aussi son titre, qui rappelle aussi un article, un recueil fameux de l'empereur de la sociologie, peut-être, ou l'empereur allemand de la sociologie, du moins, Max Weber, mais aussi la préface de Raymond Aron, que comme ça nous convoquons parmi nous. Et donc je passe la parole et vous remercie encore une fois pour nous rejoindre pour cette recherche, pour continuer cette recherche de la vérité en commun, à Pierre Manon pour une conférence intitulée « Les savants et les politiques » pour une science pratique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Giulio. Merci à tous. L'exposé de cet après-midi repose sur une présupposition que j'ai encore quelque chose à dire, ce qui reste à vérifier, mais comme Giulio me le faisait remarquer, après avoir enseigné si longtemps sans avoir soutenu de thèse, il serait temps que je soumette mes propositions à un jury compétent. C'est ce que je vais faire ce soir. Donc, le savant et le politique pour une philosophie pratique. La question que je voudrais poser se passe de préliminaire, c'est la question « Que faire ?» Question pour chacun et pour tous. Question pour le solitaire comme pour l'homme associé. Poser la question « que faire ?», c'est délibérer. Nous délibérons des choses qui dépendent de nous et que nous pouvons réaliser. C'est Aristote qui le dit. Qui est alors ce « nous » qui délibère et qui réalise ? Nous ne délibérons pas sur toutes les choses humaines. Par exemple, remarque Aristote, aucun lacédémonien ne délibère sur la meilleure forme de gouvernement pour les Scythes. Je partirai de cette remarque du patron. À partir d'elle, nous verrons naître, je crois, non seulement la science politique ou la philosophie pratique d'Aristote, mais aussi notre science et notre philosophie, notre science qui n'est pas vraiment politique, mais plutôt social, et notre philosophie, qui n'est pas vraiment pratique, c'est-à-dire qui ne sait trop que faire avec la question « que faire ?». Au lieu, en effet, de nous interroger sur l'action à faire, nous les contemporains, nous les savants modernes, nous préférons expliquer ou comprendre l'action déjà faite, entièrement déterminée donc, ou alors autoriser une action à venir, entièrement indéterminée, mais incluse dans nos droits. Donc, en introduction de ce propos, je voudrais poser le contraste entre, d'un côté, une science pratique à l'ancienne, une science de l'action à faire, de l'autre, notre rapport à ce même domaine pratique qui se divise, bifurque, entre, d'un côté, une science de l'action déjà faite, jointe et distincte de une philosophie de l'action autorisée. Aucun lacédémonien ne délibère sur la meilleure forme de gouvernement pour les sites. La forme de gouvernement, le régime politique, est l'objet de délibération par excellence, puisque le régime politique, la forme de gouvernement, conditionne toutes les délibérations ultérieures, privées comme publiques. Et bien sûr, les citoyens délibèrent seulement sur la forme de gouvernement de leur cité. Arrêtons-nous sur l'exemple choisi par Aristote. Les cites, où étaient-ils exactement ? Je ne sais plus très bien, mais enfin, ils étaient loin d'Athènes. Les cites, en raison de leur éloignement, où étaient-ils ? En Ukraine. D'accord. Très bien. Donc les cites, en raison de leur éloignement, n'entretenaient, pour ainsi dire, aucune relation significative avec les Spartiates. Ces derniers seraient-ils aussi indifférents au régime politique des cites si la City était voisine de Lacédémone ? Si la City était Anubé, par exemple. Nous nous demandons d'ailleurs pourquoi Aristote est allé chercher à Sparte ceux qui ne délibèrent pas sur le régime des cites. C'est sans doute parce qu'il n'aurait pas pu écrire « Aucun Athénien ne délibère sur la meilleure forme de gouvernement pour les cites ». Sparte, en effet, ignorait la philosophie, y compris ou spécialement la philosophie politique. Or, les philosophes d'Athènes, depuis Socrate, s'interrogeaient et pour autant délibéraient sur la meilleure forme de gouvernement en général, mais aussi selon la diversité des circonstances, y compris donc pour les cites. De fait, Aristote mentionne par deux fois les cites dans la politique, lorsqu'il critique les cités et les peuples qui valorisent à l'extrême la guerre et la domination. Pour autant, donc, il se préoccupe de leur régime politique. Et pour autant, Aristote délibère en quelque façon pour eux, sinon avec eux. Bien sûr, la délibération d'Aristote, qui relève de la science politique, celle qu'il est en train d'élaborer, de fonder, est autre chose qu'une délibération civique. Mais elle ne lui est pas étrangère. Elle ne lui est pas étrangère, comme les Spartiates, eux, sont en effet étrangers aux cites. En effet, le propos même d'Aristote, dans la politique bien sûr, mais aussi dans l'éthique à Nicomaque, est d'éclairer les délibérations des citoyens, quelle que soit la cité à laquelle ils appartiennent, afin qu'ils améliorent leur régime, quel que soit ce régime, et même s'il s'agit d'une tyrannie. Donc, le propos fondateur, originel, de la science politique ancienne, c'est bien d'éclairer les citoyens, les délibérations des citoyens, quelle que soit la cité à laquelle ils appartiennent, afin qu'ils améliorent leur régime politique, quel que soit ce régime. Avec cette remarque faite comme en passant sur le lacédémonien qui ne délibère pas sur la meilleure forme de gouvernement pour les scythes, Aristote attire notre attention sur le caractère étrange de la science qu'il est en train d'élaborer. Vous le savez, Aristote distribue en général les choses du monde en deux grandes catégories. Celles qui ne dépendent pas de nous et celles qui en dépendent. Celles qui ne dépendent pas de nous et celles qui en dépendent. Mais on peut comprendre les choses qui dépendent de nous de deux façons. On peut comprendre les choses qui dépendent de nous de deux façons. Elles peuvent dépendre d'un « nous » effectif, concret et déterminé, nous les Spartiates, nous les Scythes, nous les Athéniens, nous les Français, que sais-je. Ou nous dans cette réunion. D'un nous concret indéterminé, comme donc le régime et en général, les actions d'une cité dépendent des citoyens de cette cité. Mais les actions qui dépendent de nous peuvent aussi dépendre d'un nous indéterminé. Ce sont alors les choses humaines, éminemment les actions humaines, en tant qu'elles dépendent des hommes en général. Donc, en élaborant une science politique ou une philosophie pratique, j'utilise les deux termes indifféremment et j'imagine que cela expose à des objections. En élaborant une science politique ou une philosophie pratique, Aristote implique qu'il y a une science des actions humaines en général. Une science des actions humaines en général, une science des agendas, des choses à faire. En tant que praticien de cette science des agendas, des choses à faire, Aristote est capable d'éclairer la délibération et l'action d'un groupe humain aussi ou plus éloigné de lui que les Scythes ne sont éloignés des Spartiates. Il est, par exemple, c'est une thèse que j'ai soutenue avec constance, sinon de manière persuasive, il est capable d'éclairer notre délibération et notre action, aussi éloignés que nous soyons de lui par le temps et par l'espace, mais l'espace n'a plus beaucoup d'importance quand il y a tant de temps entre nous. Donc, la science pratique délibère là même où elle n'agit pas. La science pratique délibère là même où elle n'agit pas. Elle se propose d'accomplir une tâche qui peut sembler impossible, puisqu'elle consiste à traiter les choses qui ne dépendent pas de nous, ce que font les Scythes ou les autres, comme si elles dépendaient de nous, puisque nous pouvons éclairer leur délibération. Ainsi, Aristote ne nous laisse pas ignorer le caractère étrange et le statut précaire de la science qu'il fonde. D'un côté, et ce sont ses thèses mêmes, il n'y a de science que du général. De l'autre, il n'y a d'action que concrète et déterminée. Et pourtant, la science qu'il fonde entend être une science de l'action. En général, c'est-à-dire une science capable de déterminer quelle action concrète l'homme agissant doit produire. Bon, la science d'Aristote a pour propos de guider effectivement l'action, non pas de donner des règles générales de l'action, mais de guider, et c'est-à-dire de déterminer exactement quelle action tel agent, individuel ou collectif, doit accomplir dans telle circonstance déterminée. Une science, donc, non pas de l'action générale ou conforme à une règle générale, comme sont en général, si j'ose dire, les réflexions éthiques aujourd'hui, mais une action déterminée en fonction des caractères de l'agent et des circonstances de l'action. Science dont le caractère est étrange et le statut précaire. Et donc, si cette science se révélait impossible, ou si nous perdions confiance dans sa possibilité, eh bien, les choses du monde se trouveraient distribuées de manière toute différente. au lieu d'être répartis entre les choses qui ne dépendent pas de nous, le mouvement des étoiles ou des planètes, et celles qui en dépendent parce qu'elles dépendent de l'action humaine, les choses seraient réparties entre celles qui dépendent directement ou immédiatement de nous et celles qui n'en dépendent pas, qu'elles soient naturelles ou humaines. En reprenant l'exemple d'Aristote, nous dirions alors, en tant qu'ils agissent, tous les hommes sont comme le lacédémonien qui ne délibère pas du meilleur gouvernement pour les scythes. Si nous perdons confiance dans la possibilité d'une science de la délibération, alors nous serons tous des spartiates. Nous serons tous des spartiates, délibérant exclusivement sur notre régime, notre action. Qu'adviendra-t-il alors des scythes, des perses, des autres en général? Leurs actions, cessant d'appartenir à l'ensemble des choses qui dépendent de nous, viendront faire partie de celles qui n'en dépendent pas. Elles viendront faire partie, en somme, de la nature, ou du moins des choses que nous regardons comme nous regardons les choses de la nature. Nous serons tous des Spartiates, et non plus des Athéniens. Cela veut dire non seulement que nous délibérerons sur nos affaires exclusivement, cela veut dire aussi que nous ne regarderons pas les autres ou plus les autres comme délibérants. La seule délibération que nous connaissions, c'est celle dont nous faisons concrètement l'expérience, c'est la nôtre. Or, si nous ne regardons pas les autres comme délibérants, parce que nous n'avons pas connaissance et science de la délibération en général, alors le caractère de délibération de notre propre attitude pratique s'obscurcit. Notre rapport à notre propre action ne peut plus reposer vraiment sur la délibération. Donc, si l'entreprise d'Aristote a été vaine, s'il n'y a pas de science de la délibération, alors la connaissance des choses humaines se trouvera distribuée ou démembrée entre deux points de vue. Le point de vue de celui qui agit effectivement et le point de vue de celui qui regarde les choses humaines comme il regarde les choses qui ne changent pas et ne sont pas objets de délibération. La connaissance des choses humaines se trouvera distribuée ou démembrée entre le point de vue de l'agissant et celui du savant. Et si la science de la délibération se révélait impossible, ou si nous perdions confiance dans sa possibilité, eh bien, nous serions amenés à traiter les choses qui dépendent des hommes comme si elles n'en dépendaient pas, d'un côté, et de l'autre, à agir sur les choses qui dépendent de nous comme si elles n'étaient pas objet de science. Vous l'avez compris, ce n'est pas une devinette. J'aurais pu renoncer au conditionnel. Les Spartiates, c'est bien nous. Les Spartiates, c'est bien nous, dans la mesure où nous avons en effet perdu confiance dans la possibilité d'une science de la délibération ou d'une science de l'action humaine. On peut débattre du moment et des causes de cette perte de confiance et nous y reviendrons. Mais ce qui ne semble guère douteux, c'est que toute notre organisation intellectuelle et aussi notre organisation politique reposent en quelque façon sur cette perte de foi ou répondent en quelque façon à cette perte de foi. On pourrait dire que l'immense déploiement des sciences humaines, inséparablement l'immense déploiement des institutions de la politique moderne, sont conditionnés par la certitude qu'il n'y a pas de science de l'action humaine, qu'il n'y a pas de science de l'agindoum ou de l'agindoum. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a seulement d'un côté une science des actas, des choses faites, des choses passées. De l'autre, il y a une philosophie, en tout cas une théorie des actions autorisées, une philosophie des droits. Il y a d'un côté une science de l'histoire et de l'autre une philosophie des droits. La science de l'histoire est la mère des sciences humaines parce que les sciences humaines traitent toutes les actions comme si elles étaient passées. Comme si, posées devant nous, elles ne dépendaient pas de nous, comme si elles ne dépendaient pas d'êtres humains délibérants et agissants, mais de relations causales saisies par la raison théorique. S'il y a ou s'il n'y a pas une science rigoureuse de l'action humaine, et donc, en quoi celle-ci consiste-t-elle si elle existe, cela dépend étroitement, bien sûr, de la manière dont on comprend l'action humaine. Rappelons d'un mot la manière dont Aristote comprend le mécanisme de l'action humaine, ce qui fera ressortir la manière dont nous la comprenons et pourquoi il y a pour lui et il n'y a pas pour nous de science pratique. Selon Aristote, vous le savez, une fois que nous avons posé la fin de notre action, nous examinons par quels moyens nous la réaliserons. L'action est l'objet d'une science spécifique parce que la délibération est une recherche ou même un calcul. La délibération est une recherche ou même un calcul, recherche ou calcul des moyens. Aristote paraît mettre au premier plan la fin que nous posons, la finalité que nous posons, mais cette fin n'est pertinente pour l'action que lorsque la délibération a trouvé les moyens. Et que l'agent, comme le dit Aristote, a ramené à lui-même le principe de son acte et à la partie directrice de lui-même, car c'est cette partie qui choisit. Donc la fin n'est effectivement posée que lorsqu'on a commencé à choisir, d'abord à délibérer sur les moyens, à les choisir et à les mettre en œuvre. Or, ces moyens, infiniment divers au gré des circonstances et des instruments annexes dont l'action a besoin, ces moyens sont cependant pour l'essentiel en nombre limité. Où l'appareil des moyens a une structure finalement, qu'il faut dire, simple. Pour autant que la science pratique au sens strict est concernée, les moyens de l'homme agissant se disposent selon une structure cohérente et stable dans toutes les actions humaines, structure formée par les quatre vertus cardinales, les bonnes vieilles quatre vertus cardinales. Dès lors qu'il y a des hommes qui agissent, la recherche des moyens se fait selon un certain dosage du courage, de la tempérance ou de la modération, de la justice et de la prudence. Comparé à la force et la stabilité de cette structure de base, reconnaissable sous tous les climats et dans tous les groupes humains, la diversité des choses humaines, leur infinie variété, n'est au fond que bigarrure insubstantielle. Si d'ailleurs nous pouvons à bon droit parler de l'humanité comme d'une espèce partageant une nature commune, c'est à cause de ce dispositif des vertus pratiques. Ce dispositif des vertus pratiques qui me fait reconnaître, par exemple, un homme courageux et juste dans l'être humain, dans tel être humain né sous la latitude la plus éloignée et apparemment le plus différent de moi. Devrons-nous alors compter pour rien la diversité des coutumes humaines ? qui, de Montaigne à Montesquieu, de Montesquieu à l'ethnologie contemporaine, diversité des coutumes humaines qui a fixé et, pour ainsi dire, monopolisé l'attention des savants. L'humanité s'installant dès lors, depuis lors, dans un étonnement émerveillé devant sa propre diversité. En tout cas, la diversité n'apparaît comme la modalité la plus significative du phénomène humain que si l'action humaine est regardée principalement dans ses fins déclarées, au lieu d'être reconnue dans ses moyens effectifs. La diversité ne vient au premier plan que lorsque nous réduisons l'action à sa première et moindre moitié, celle qui consiste à poser la fin, comme dit Aristote, on pourrait traduire, à manifester un vœu, à produire une image. Cette moitié d'action, ce commencement de l'action, cette formulation d'un vœu, d'une image, d'un souhait, n'est pas vraiment une action. Et on en voit le signe dans le fait que la diversité des choses humaines se manifeste surtout dans les composantes de la vie humaine qui comportent le moins de teneur en action complète. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont des polissons que Montaigne et Montesquieu se plaisent à dérouler la diversité des mœurs sexuelles et familiales. C'est parce que ces mœurs, comme d'ailleurs les coutumes religieuses, dépendent beaucoup moins de l'homme agissant et beaucoup plus, je dirais, de l'homme imaginant. En revanche, dès que l'on regarde la manière dont le groupe humain se gouverne, dès que l'on s'enquiert de son régime politique, dès que l'on délibère sur la forme de son gouvernement, alors la constance et, pour ainsi dire, la monotonie des ressorts de l'action humaine viennent au premier plan. Il s'agit toujours de combiner avec prudence le petit nombre et le grand nombre, la justice et la modération, la vertu et les arts de la paix, la vertu et les arts de la guerre. S'ils s'attachent à la diversité de leurs mœurs familiales et de leurs coutumes religieuses, les Américains et les talibans se regarderont comme très différents les uns des autres. S'ils négocient sérieusement la transition politique, ils n'auront pas de peine, je ne dis pas à s'accorder, mais du moins à se comprendre, et éventuellement à comprendre pourquoi ils ne s'accordent pas. Je ne sais pas si nos collègues américains seront d'accord avec cette proposition. On dira que ces remarques supposent une valorisation de la part politique de la vie humaine au détriment de ses autres composantes. Une valorisation de la politique ou du politique qui, même si elle rencontre notre sympathie, doit être reconnue comme arbitraire. Pourquoi la compréhension du régime politique serait-elle plus éclairante que celle des structures élémentaires de la parenté ou celle de l'entre-appartenance du religieux et du social? Je ne ferai en somme, objectera-t-on, que prolonger très au-delà de leur date de péremption les valeurs politiques de la cité grecque, ou plus généralement de la cité antique. C'est une objection qui a un pédigré très prestigieux, l'objection de l'anachronisme, mais c'est une objection qui suppose ce qu'il s'agirait de prouver, à savoir que la différence des temps est plus forte que la continuité de l'expérience politique humaine. Il faudrait prouver que la différence des temps est plus forte que la continuité de l'expérience politique humaine. Employé dans ce contexte d'ailleurs, le mot de valeur n'apporte aucun éclaircissement. Il empêcherait plutôt de penser l'action parce qu'il tend à réduire celle-ci, je dirais, à une position sans mouvement. On peut dire, si l'on y tient, que la valeur, c'est la finalité de l'action, mais on suppose alors que celle-ci peut exister comme simplement posée, que la fin peut exister indépendamment des moyens recherchés par la délibération. Et donc la valeur, c'est la fin sans les moyens. Ce n'est donc même pas une fin. Tout au plus, un vœu. La valeur, c'est la belle image confuse d'une action possible. Autant dire peu de choses, tant que n'a pas été enclenchée la délibération sur les moyens. La valeur étant soumise à la bigarrure de la représentation et de l'imagination, la variété des valeurs est infinie, tandis que les motifs effectifs de l'action, nous l'avons souligné, sont en nombre très limité. Or, parce qu'il repose sur une délibération et une action continue sans lesquelles il cesserait immédiatement d'être, il cesserait immédiatement d'exister, l'ordre politique est une mise en œuvre incessante des motifs effectifs de l'action selon le dispositif des vertus cardinales, sans quoi il n'existerait pas. Dès lors, la primauté du politique, disons-le ainsi, loin d'être le résultat d'un choix de valeur arbitraire des Grecs et des Romains, la primauté du politique appartient à la condition humaine elle-même. L'ordre politique est l'ordre de la vie humaine qui peut le moins se contenter de déclarer des valeurs, puisque c'est l'ordre de la vie humaine qui peut le moins échapper à l'obligation de chercher les moyens. Celui qui gouverne est par excellence celui qui délibère sur les moyens. Nous avons pu observer du reste, dans certaines circonstances, que l'inflation des valeurs est proportionnelle à l'atonie de la délibération et à l'épuisement de l'action. Donc, la science de l'action n'est pas dépendante d'une valorisation arbitraire de la vie politique. La science de l'action n'est pas dépendante d'une valorisation arbitraire de la vie politique. Elle cherche simplement, si je peux dire, l'action là où elle est la plus complète. Ce qui, d'ailleurs, l'a conduit à mesurer l'importance du régime politique, y compris dans les ressorts de l'organisation familiale ou religieuse, dont les formes dépendent souvent, ou même essentiellement, du régime politique. Les motifs humains n'accèdent donc à la clarté de la connaissance que lorsqu'ils produisent une action qui s'inscrit visiblement dans l'espace public, au lieu d'un mouvement de l'âme qui s'achève dans le sentiment ou dans l'imagination. Je n'ai pas encore considéré l'objection, sans doute la plus forte, contre les propositions que je suis en train de dérouler, un peu assertoriquement, je l'admets. Objection qui consiste à dire, si cette science de l'action à faire est à ce point appuyée sur le dispositif de la vie pratique formé par les motifs humains et les vertus, si ce dispositif est essentiellement stable, et si on le retrouve à l'œuvre dans tous les groupes humains, pourquoi, tout bêtement, pourquoi avons-nous renoncé à cette science de l'action? Pourquoi avons-nous dit si complètement adieu Aristote depuis si longtemps? Non seulement nous y avons renoncé, non seulement nous avons dit adieu à Aristote, mais nous l'avons congédié, brutalement. Nous avons rejeté cette science, et les plus grands esprits, depuis quelques siècles, n'ont cessé de multiplier les arguments pour rejeter la science des agendas au profit, je l'ai dit, d'une science des actas. La science politique et pratique, politique ou pratique, au profit de la science de l'histoire, mère des sciences humaines. Nous devons avoir quelques solides raisons pour avoir accompli ce parricide. Les modernes doivent avoir quelques solides raisons. Où les chercher? Nous sommes confrontés à une sorte d'énigme. Les modernes se sont engagés dans de grandes actions, dans des actions toujours plus grandes, dans ce grand projet qu'est la modernité elle-même, de quelque façon qu'on la définisse. en même temps qu'il renonçait de manière toujours plus complète à la science de l'action, au profit de la science de l'histoire. En même temps qu'il renonçait de plus en plus à la science de l'action, de l'action à faire, au profit de la science de l'action déjà faite. Ce paradoxe suppose qu'une incertitude inédite avait frappé le dispositif pratique que je dis si solide. Quelque chose empêchait que nous nous orientions selon, j'allais dire, l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire selon la chose à faire, selon l'agendum. Étrangement, nous avons eu de plus en plus besoin de voir l'histoire humaine devant nos yeux, de la regarder comme chose faite pour savoir ce que nous avions à faire. Situation dont nous ne mesurons pas suffisamment, je crois, l'étrangeté, tant elle nous est devenue précisément naturelle. Ce besoin de voir l'histoire humaine déployée devant nos yeux, de la regarder comme chose faite pour savoir ce que nous avions à faire. C'est là, je crois, le ressort le plus intime de la pensée du progrès qui fait le fond de notre perspective sur les choses humaines. Encore une fois, pourquoi ? La réponse qui me semble la plus plausible et qui est à la fois la plus plausible et la plus pleine de difficultés, cette réponse a été donnée depuis longtemps par d'innombrables auteurs, historiens ou philosophes. Mais cette quasi-unanimité ne nous est d'aucun secours, car tout dépend de la manière dont on comprend cette réponse. Quelle réponse ? Celle selon laquelle la cause ou le ressort du développement européen dans ce qu'il a de singulier, le Sonderweg européen, réside originellement dans l'intervention du christianisme. Alors, cette thèse comporte tant de versions, je viens de le dire, tant de versions y compris dans cette maison, qu'en elle-même, elle ne signifie pas grand-chose. Je la spécifierai donc de la manière suivante. Le propre de la proposition chrétienne en tant que facteur historique, c'est qu'elle introduit un trouble profond et qui s'est révélé insurmontable dans le dispositif pratique, dans l'agencement des vertus et des motifs humains. La proposition chrétienne adresse à l'humanité des demandes d'une radicalité inédite. En particulier, elle lui adresse une demande qui met en danger le cadre naturel des motifs et des vertus qu'est l'association politique. Elle met en danger le cadre politique de la vie humaine, tout simplement en exigeant des hommes qu'ils aiment leurs ennemis. Exigence exorbitante. Exigence exorbitante d'aimer ses ennemis, exigence dont on se demande comment elle a pu jamais être avancée, entendue et propagée, mais qui en tout cas a signifié une radicale modification du rapport entre l'ordre politique et l'ordre religieux. Jusqu'à l'irruption de la proposition chrétienne, l'association religieuse se confond avec l'association politique. Les dieux ne sont qu'une institution de la cité, une institution avec laquelle on négocie, que parfois l'on traite fort mal, mais les dieux font la guerre avec la cité. C'est le cas encore de la religion juive, dont la prière ignore une autre récompense que de longs jours et une nombreuse prospérité. Avant la proposition chrétienne, les récompenses et les peines distribuées par les dieux appartiennent essentiellement à ce monde, c'est vrai encore une fois, de la religion juive comme des religions civiques païennes. Avec l'Église chrétienne, la religion se dégage entièrement de l'ordre politique. Elle sort de la dépendance radicale qu'il a liée à l'ordre politique pour accéder à une indépendance essentielle. Elle vit désormais d'un principe qui n'est pas dans la nature, qui en particulier n'est pas dans la nature politique de l'homme, à savoir la charité, qui est obéissance au commandement d'aimer ses ennemis. Bien entendu, le dispositif des vertus et des motifs resta ce qu'il est par nature. Il va sans dire que les chrétiens continuèrent de haïr solidement leurs ennemis. De même, l'Église, organe et véhicule de la proposition chrétienne, ne cessera d'être mêlée intimement à l'ordre politique. Et elle semblera même souvent sur le point d'être réabsorbée, si je peux dire, par les motifs naturels, soit qu'elle revendique de commander à l'ordre politique lui-même, l'Église médiévale, si l'on veut, soit qu'à la manière ancienne, païenne ou juive, elle opère comme un complément de l'ordre politique. Cependant, aussi transie et si l'on veut aussi corrompue qu'elle soit par les motifs humains naturels, la proposition chrétienne et l'Église qui en est le véhicule ne cessera d'échapper à l'ordre politique par le commandement d'aimer ses ennemis qui, aussi peu suivi qu'il soit en pratique, garde son mystérieux pouvoir d'intimidation. À tel point que les plus vigilants ennemis du non-chrétien, de Machiavel à Nietzsche, ne cesseront d'imaginer des moyens toujours plus extrêmes de délivrer l'humanité d'un commandement aussi pénétrant et à leurs yeux aussi dégradant. Ce commandement contre nature, si j'ose dire, n'aurait jamais captivé l'oreille et parfois le cœur des hommes s'il n'avait été formulé par un agent qui, médiateur entre les hommes et Dieu, prit librement sur lui toute l'inimitié des hommes. C'est la figure de Jésus-Christ qui rend impossible la résorption toujours imminente de l'association religieuse dans l'association politique. Ce sont les paroles par lui prononcées qui, aussi peu de pouvoir qu'elles aient pour changer la conduite effective des hommes, tiennent pour ainsi dire en respect les mouvements les plus puissants de la nature. Jointes aux sacrifices qui les attestent, elles garantissent, d'une certaine façon, ou semblent garantir, que l'inimitié a été vaincue. En termes plus immédiatement théologiques, la médiation du Fils, indispensable pour accéder au Père, la médiation de celui en qui vient mourir toute inimitié, empêche que le Père ne soit enrôlé au service de la cité et que le christianisme ne produise une théologie politique. Nous en avons une admirable preuve a contrario par la théologie politique de Carl Schmitt. Carl Schmitt ne pourra imaginer une théologie politique supposément chrétienne, une théologie qui, se voulant spécifiquement politique, commande de haïr ses ennemis. Il ne pourra imaginer une telle théologie politique qu'en faisant pénétrer l'inimitié à l'intérieur de la Trinité elle-même, comme vous pouvez le vérifier en lisant le Narvort de sa seconde théologie politique. Encore une fois, Gesta Dei per Francos, God mit uns, God bless America, les chrétiens, restant des hommes, ne cesseront de se rapporter, au moins pour partie, à leur religion de manière naturelle, c'est-à-dire politique. Mais le dogme de la Trinité préservera toujours, quand il est préservé dans son intégrité, il préservera toujours l'indépendance substantielle et l'irréductibilité essentielle de la proposition chrétienne. Les questions soulevées réclameraient bien sûr un traitement beaucoup plus précis. Je dois cependant suivre mon propos. Encore une fois, il s'agit du débat entre la science de l'action à faire et la science de l'action faite, entre la science politique et la science de l'histoire. Aux yeux de beaucoup, l'irruption du christianisme nous oblige à adopter le point de vue historique, puisque, introduisant un changement radical dans la perspective sur l'action humaine, il détermine une différence des temps qui ne peut plus être ramenée dans les limites d'une nature politique des hommes qui, pour l'essentiel, ne changerait pas. Eh bien, je ne crois pas que nous comprendrons mieux ce qui s'est passé si nous le comprenons comme histoire. ou comme histoire avec un grand H. On peut dire, bien sûr, que le christianisme a succédé au paganisme et que nous vivons aujourd'hui dans des temps post-chrétiens. Le problème avec cette histoire, ce n'est pas qu'elle est inexacte, c'est qu'elle est histoire et que nous la regardons comme si nous étions installés au ciné-panorama pour le grand film de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas ce loisir. Nous ne pouvons pas regarder l'homme qui délibère comme s'il avait toujours déjà délibéré, comme s'il était une chose qui ne change pas ou comme si son action ne dépendait pas de lui. L'action était devant Périclès, elle était devant Paul de Tarse et elle est devant nous. La question est toujours de savoir comment nous mettons en œuvre les raisons de la cité et donc quel est notre courage, quelle est notre modération, quelle notre justice, quelle notre prudence. Et la question est encore de savoir si nous entendons le commandement d'aimer nos ennemis et comment nous l'entendons. Toutes ou presque toutes les représentations de l'histoire qui prévalent aujourd'hui supposent que l'histoire a choisi pour nous et que nous n'avons plus à agir au sens plein du terme, car nous n'avons plus à choisir. Les choses sont décidées depuis longtemps. Elles n'ont en somme été décidées par personne, mais elles ont été décidées. Nous sommes des individus titulaires de droits qui n'ont plus rien à faire dans ce monde ni dans l'autre que faire valoir leurs droits. Sans sous-estimer mon pouvoir de persuasion, je soupçonne que peu d'entre vous m'accorderont que le choix est devant nous comme il était devant Périclès ou saint Paul. Pour beaucoup de nos contemporains en tout cas, il y a un mouvement des sociétés modernes assez visible qui nous emporte assez puissamment et depuis assez longtemps pour que nous puissions dire avec assez d'assurance qu'en effet les choses ont été décidées sans nous et avant nous et que nous pouvons, sans scrupule excessif, dire adieu à Aristote et adieu aux évangiles. À cela, je répondrai que le mouvement qui semble irrésistible a bien moins de force qu'il ne semble, ou qu'il puise de plus en plus la force qu'il a ou qu'il semble avoir dans un refus de choisir ou des refus de choisir qui ne peuvent se prolonger indéfiniment. Pour résumer de la manière la plus synthétique possible le problème humain en tant que problème pratique, je dis volontiers, certains d'entre vous ne le savent que trop, qu'il s'agit toujours de lier les paroles aux actions, les actions aux paroles. Dans la cité politique, exposé persuasif des motifs de l'action à venir ou raison donnée des actions passées, les paroles accompagnent l'action visible en laquelle réside le poids des choses. La proposition chrétienne donne immédiatement l'avantage aux paroles, en tout cas à la parole avec une majuscule. Bien sûr, la validité des paroles chrétiennes est attestée par les actions, par les œuvres, mais il y a toujours une parole avant toute action, une parole que le chrétien n'en a jamais fini de rejoindre. Parole extrêmement épineuse, comme par exemple la proposition de se faire eunuque pour le royaume des cieux, parole scandaleuse, comme nous l'avons dit, le commandement d'aimer ses ennemis. En tout cas, le monde chrétien, vécu sous l'autorité de paroles intimidantes, qu'il était à la fois difficile de congédier, mais tout aussi difficile de relier aux actions usuelles de la famille et de la cité. Et la réforme fut ce moment paradoxal où, tout en préservant, en un sens libérant et même exaltant le rôle de la parole, on engagea la résorption de l'association religieuse dans l'association familiale et politique, dans le mariage et la famille chrétien, dans la nation chrétienne. Une certaine stabilité se chercha alors entre la marque confessionnelle de la nation et la prudence politique de l'État qui, après avoir imposé une orthodoxie, prit la direction de la neutralité ou de la laïcité qui nous est familière. Ce qui importe cependant pour notre propos, c'est plutôt l'instabilité de la parole et en général des paroles qui cherchaient leur lieu entre l'Église et l'État, l'État et la nation, l'État et la société. Ce qui se cherchait incessamment ou sans cesse, c'est l'attache de la parole ou des paroles et de l'action. Vous le savez, nous le savons bien, nous y sommes, nous essayons d'y rester. On trouva la solution dans le régime représentatif qui assure la jonction entre la parole sociale et l'action gouvernementale. Le gouvernement représentatif vit de la parole sociale dont l'État neutre garantit qu'elle se forme et se formule librement. Le gouvernement représentatif fut un accomplissement admirable, affecté cependant d'une grave faiblesse. Ce n'est pas seulement que la représentation est en tant que telle problématique, qu'elle est presque toujours décevante dans la mesure où les représentés tendent naturellement à se juger mal représentés par leurs représentants. C'est plus radicalement que le régime représentatif tend à obscurcir le lieu et la nature de l'action. Où agit-on vraiment et qui agit ? Où est vraiment l'homme agissant ? Dans la société civile ou alors dans l'État ? Où ? Marx pensa, on le sait bien, il en a été question, Philippe de Larane a parlé le premier jour, Marx pensa que cette incertitude et cette division n'étaient pas tenables. Et la révolution qu'il envisagea d'abord, c'était en 1843, avait pour sens de ramener à l'unité le lieu de l'action, de ramener l'action à l'unité de lieu, afin que celui qui agit ou ceux qui agissent parlent avec leurs paroles et agissent selon leurs paroles. Le gouvernement représentatif suscite le désir d'un retour à l'unité de la communauté politique, par-delà la division entre représentants et représentés. Et ce désir révolutionnaire n'a en somme rien que de naturel. Comme Marx encore l'exprima de manière inoubliable, le citoyen moderne divisé entre la société civile et l'État est aussi déchiré et perplexe que le chrétien hésitant entre la terre et le ciel. C'est d'ailleurs pourquoi, et je reviens ici à l'exposé de Philippe, je ne suis pas convaincu par les interprétations du totalitarisme qui en font un retour anachronique de la totalité sociale dans un monde où l'individualisme est déjà advenu. J'y verrai plutôt un effort pour rattacher enfin fermement la parole et à l'action, d'une manière qui les délivre l'une et l'autre du va-et-vient incertain et démoralisant propre au régime représentatif. C'est précisément le rôle de l'idéologie de rattacher toutes les actions possibles à un ensemble déterminé et clos de paroles. Et c'est le rôle du parti idéologique de réunir de manière explicite et même emphatique et passablement pédante la parole et l'action. Bien entendu, ce rattachement est arbitraire et violent. La même parole justifie, selon les circonstances, des actions opposées. Cette parole est structurellement mensongère. Mais le propos de mettre un terme à l'incertitude de la représentation répond aussi à un désir naturel de l'animal politique et parlant. Après tout, ce que nous appelons le politiquement correct, s'il ne faut certes pas le confondre avec la contrainte totalitaire, est aussi une discipline de parole qui entend répondre au désarroi actuel du régime représentatif, où l'on ne sait plus qui représente quoi, ni s'il s'agit encore de représenter un corps politique ou pas. Nous avons abjuré la tentation totalitaire, mais nous ne savons plus en quoi consiste notre délibération. Nous ne savons plus en vue de quoi, ni pour qui nous délibérons, ni même si nous délibérons. Alors, politiquement correct, nous nous obligeons à parler de telle sorte que nous ne nommons l'autre que pour souligner qu'il est le même. Notre « nous » s'indétermine dans une opération d'identification illimitée à tout autre, identification par la parole, qui se substitue à l'effort d'association par l'action, à laquelle ou auquel nous avons renoncé. Je m'apprête à conclure. La question posée par Aristote revient avec une acuité qu'Aristote ne pouvait imaginer. Pour qui délibérons-nous ? Pour le meilleur gouvernement de qui délibérons-nous ? pour le meilleur gouvernement de la France, ou de la zone euro, ou de l'Union européenne, ou de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ou telle qu'elle sera demain, si nous ne savons plus pour qui nous délibérons, alors nous ne pouvons plus proprement délibérer. Et nous sortons du domaine de l'action proprement dite. Le mouvement politique et spirituel d'effacement des frontières, dans lequel nous avons mis toute notre vertu, nous a conduit en un point où les conditions de la délibération nous ont été ôtées. Non pas par la violence d'un pouvoir tyrannique, mais par l'effet d'une suspension volontaire de nos puissances actives, d'une désactivation de l'ergone propre de l'homme citoyen. La mise en ordre du monde ne résidera plus, pensons-nous, dans l'activité des vertus cardinales, dans l'action des vertus cardinales, mais dans l'abandon à la contagion du semblable et, en somme, dans l'organisation de notre passivité. L'adaptation aux nécessités de la mondialisation est le nom modeste et pour autant persuasif de cet immense désarmement. Sous cet intitulé ostensiblement utilitaire, l'adaptation aux nécessités de la mondialisation, s'est installé un immense pouvoir spirituel qui vient peser sur chaque mouvement de l'âme avec plus d'autorité que l'Église de Rome n'en exerça jamais. Émettez-vous le modeste désir de continuer de parler et d'enseigner dans votre langue maternelle, qui peut même être le français, aussitôt s'abat sur vous une grêle d'arguments contondants. On empile la Chine et l'Amérique, la loi des avantages comparatifs et le classement de Shanghai. Bref, c'est le monde tout entier que l'on entasse sur vos épaules qui ne peuvent effectivement le porter. Ceux qui parlent au nom du monde sont évidemment irréfutables. Ils oublient seulement que la nécessité ne peut être une règle pour l'action que si celle-ci a un but spécifique et vise un bien qui est digne de choix en lui-même. Pour que les nécessités de la mondialisation fournissent éventuellement un critère en effet utile, encore faut-il que nous formions une communauté de délibération susceptible de prendre en compte ces nécessités dans la recherche d'un bien désirable pour lui-même, qui ne serait pas vraie recherche d'un bien s'il ne prenait pas en compte, en effet, les nécessités. Or, telle qu'elle est conçue aujourd'hui par la religion civile des Européens, mais non pas des autres, la mondialisation consiste à prévenir tout ce qui pourrait conduire à la cristallisation d'une communauté de délibération, non seulement que celle-ci soit familiale, soit nationale, mais aussi que celle-ci réunisse plusieurs nations européennes. Je ne sous-estime pas les satisfactions psychiques impliquées dans ce que j'appelle la désactivation de nos puissances. Après tout, pour qui a mis sa foi dans la contagion de la ressemblance, il n'y a plus d'ennemis à combattre ni à aimer. On n'a plus à s'interroger sur le rapport entre vertu politique et vertu chrétienne, on est dispensé des deux. Mais c'est un acte de foi ou un pari. C'est donc malgré tout un acte. Notre action consiste de plus en plus dans cette étrange suspension de l'action. Parlant du soft power européen, nous parlons comme si nous avions confiance dans le fait que notre inaction se rendra en quelque sorte de plus en plus irrésistible en nous et autour de nous. Je crois au contraire que l'extension du domaine de notre passivité ou l'élargissement du domaine de notre passivité ne fera que rendre plus dangereux le moment où le désordre intérieur et extérieur rendra plus impérieux et en vérité nécessaire la définition, c'est-à-dire la circonscription du cadre de la délibération et de l'action. Nous nous sommes installés dans cette conception mutilée de la vie pratique qui comprend celle-ci comme position de valeur. Nous posons les valeurs et nous regardons les faits. Nous posons les valeurs dans une indifférence toujours plus grande aux faits. Et nous nous commandons d'obéir toujours davantage aux faits toujours plus pressants. D'un côté, notre foi dans la contagion de la ressemblance postule un monde qui ne nous oppose aucune résistance. D'autre part, notre science de la mondialisation postule un monde auquel nous ne pouvons opposer aucune résistance. Or, c'est lorsque nous agissons que nous éprouvons la résistance du monde en même temps que nous lui résistons. Et c'est cette négociation avec le monde qu'administre les vertus cardinales, c'est selon elle que s'ajointe la pesée du monde sur nous et notre pesée sur le monde. Et c'est seulement dans une communauté de délibération et d'action que cet ajointement, toujours précaire, peut se faire. Ainsi, aujourd'hui comme jadis, et aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, la question des actions à faire est devant nous. Et la science politique et pratique est toujours, ou de nouveau, la première des sciences humaines. Je vous remercie.
Pierre, vous nous avez offert encore une fois une vaste matière à méditer et c'est sûr que le questionnement est pour nous tous devant nous. Mais nous, maintenant, nous ne pouvons pas laisser les images confuses se produire ou les puissances se désactiver. Nous continuons tout de suite notre dialogue entre les savants et les politiques, en l'occurrence entre les philosophes et les sociologues. Donc je suis très content de